Papa t'attend. Les garçons t'attendent. Albert dans sa cosmogonie t'attend. Pierrot qui prie t'attend. Les uns et les autres à qui j'ai écrit en silence t'attendent. Mamie sans le savoir t'attend. Julie t'attend. Jeanne et Aurélien t'attendent. Sido, Clément, Antoine, Lucie, Hugues et tant d'amis derrière tes amis t'attendent. Ta vie rue Masséna t'attend. Tes livres, ta recherche, tes écrits t'attendent. Et ici, les fleurs dans les talus, dans les champs, sur le bord des chemins t'attendent. La buse variable en vol t'attend. Les passereaux qui fuient t'attendent. Le vent du soir t'attend. Le vert partout t'attend. Les arbres tous t'attendent. Le printemps qui s'installe t'attend. Les nuages aussi t'attendent. Le ciel grand t'attend. Les pierres muettes t'attendent. Au loin des montagnes t'attendent. Les mots t'attendent. Mes pas t'attendent. Je t'attends. J'ai arrêté la terre. Mon moineau, mon étoile, ma plume, ma montagne, mon printemps, ma linotte, mon éma, mon volcan, mon mourant des oiseaux, ma raison, ma vie, je t'attends. Je viens de lire une lettre que m'a écrite ma mère quand j'étais au Vinatier. Elle m'a écrit assez souvent, sans jamais me donner les lettres, puisque au début, je ne pouvais avoir personne, puisque j'ai passé un mois dans un service fermé. Donc pour bouffée délirante aiguë, j'ai été internée le 16 février, je suis sortie le 18 mars, et pendant ce mois d'hospitalisation, j'ai été mise à l'isolement pendant 2 semaines pleines, donc une semaine en soins intensifs, où j'avais toujours quelqu'un avec moi, j'en garde très peu de souvenirs, et puis une autre semaine où j'ai été contentionnée, où je garde aussi assez peu de souvenirs, où pour le coup il n'y avait plus personne avec moi. Et ça a été un moment de rage immense, cette deuxième semaine de contention. Et puis tout s'est étonnamment apaisé le jour où j'ai enfin pu prendre une douche. Ça faisait 2 semaines que je n'avais pas pris de douche. Et il y a une infirmière qui est venue et qui m'a ouvert la porte. C'était assez vétuste, qui m'a ouvert la porte de la douche. Et je me souviens très bien qu'au moment où je me suis lavé les cheveux, j'avais une sorte de grosse touffe de cheveux dans la main. J'en avais un peu honte et l'infirmière m'a dit « mais donnez-la moi, je vais la jeter ». Et j'ai trouvé ce geste très fort, c'était assez stupide, hein. C'était juste une touffe de cheveux. Mais le fait qu'elle s'occupe de ça m'a fait dire « en fait, vous êtes des alliés, vous n'êtes pas des ennemis ». Mais c'était le premier geste de soin que je recevais, que quelqu'un s'occupe de cette touffe de cheveux complètement sec qui était dans ma main. Après ça, j'ai passé 2 semaines dans une chambre seule où j'ai dû tout faire pour montrer que j'allais bien. Donc c'était quand on entre en psychiatrie et que c'est sous contrainte, on ne sait pas exactement quand est-ce qu'on va sortir. Donc le but, c'est de prouver qu'on va bien, qu'on est au top. Ce qui n'était pas évident tous les jours, je pleurais beaucoup, j'avais encore la maladie qui était présente puisque la bouffée délirante aiguë, ça se manifeste comme un moment de très très grande agitation, de très grande créativité, aussi de très grands désirs. Et c'est la folie. Mon psychiatre dit ça tel qu'on la voit dans les BD, c'est des gens qui se prennent pour Napoléon. Moi je me prenais pour Sainte Thérèse d'Avila. Et j'étais dans une sorte de délire un peu de puissance, où je pensais que j'étais une grande justicière et que j'allais sauver toutes les femmes violées. C'était dans mon délire, c'était ça. Et j'étais complètement enragée à chaque fois qu'il y avait la moindre offense. Je disais que j'allais porter plainte contre tout, contre les contentions, contre l'hôpital, contre les violeurs, contre les agresseurs, contre les harceleurs. J'avais une sorte de rage très très forte. Et je crois que les médicaments et puis la contention m'ont complètement ralenti. Moi, je me souviens que la première fois que j'ai vu le psychiatre, juste avant d'aller à l'hôpital, il m'a dit... Là, c'est comme si vous étiez une voiture lancée à 200 à l'heure qu'on va freiner brutalement. Et effectivement, les contentions physiques et les contentions chimiques, c'est un énorme ralentissement. Aujourd'hui, ça va bien. Mais en tout cas, à l'hôpital, ça a été au début d'une très grande violence, puisqu'on essaye plein de médicaments. Puis on m'a collé tout un tas d'étiquettes. Alors d'abord, c'était schizophrène, après c'était bipolaire. À ce moment-là, j'avais fait quand même une dépression. Et cette bouffée délirante aiguë, c'est le revers de la dépression. En sortant de l'hôpital, j'étais d'abord très en colère quand j'ai réalisé que j'avais été contentionnée pour le motif que j'avais griffé un psychiatre. Et je l'ai griffé, mais à mon avis, parce que j'ai essayé de leur piquer les clés pour sortir. J'essayais vraiment de m'enfuir parce que je pensais que j'étais dans un escape game à l'hôpital. Et donc, mon but, c'était de m'échapper. Et par tous les moyens. Donc, j'essayais de passer entre les jambes des soignants, j'essayais de piquer les clés, Je tapais contre la porte, je hurlais, j'étais complètement folle, mais mon but, c'était vraiment de m'échapper. Et les contentions, je les ai arrachées deux nuits de suite avec les dents. C'est les seuls souvenirs que j'ai des contentions. C'est assez violent quand on vient nous contentionner. Je me souviens, c'est des mecs avec des gros bras, crâne rasé. Moi, on m'a poussée violemment contre le lit. Et je me souviens leur dire, mais je suis un poids-plume, qu'est-ce que vous faites, quoi? Avec mes 50 kilos. Et en fait, ce que j'avais pas réalisé à ce moment-là, c'est qu'on a la force du désespoir est énorme. Et on a une force qui est décuplée. Et on pourrait vraiment faire du mal. Donc je comprends pourquoi c'est des gros bras qui viennent. Après, ça reste assez traumatique comme moment, puisque c'est violent. Pour manger, on ne me libérait qu'une seule main. J'avais des barquettes en plastique et j'avais juste une main pour manger. Et je me souviens que j'étais tellement sédatée que je demandais aux infirmières de parler pendant que je mangeais pour pas que je m'endorme. Et ce que je faisais aussi quand j'étais contentionnée, pour embêter le personnel soignant, je me faisais pipi dessus, tout le temps. J'hurlais tellement que j'avais soif, j'avais terriblement soif, donc c'est eux qui me faisaient boire. J'avais pas mes mains. Et en fait, à ce moment-là, j'entendais des voix. Ce qui était étonnant, c'est que je faisais mon yoga quand j'étais à l'hôpital, tous les matins. Donc le matin, je me mettais sur la tête, je faisais mes étirements et l'après-midi, on m'attachait. Donc j'avais encore une souplesse assez importante et je me souviens d'avoir fait des. Mais me mettre dans des positions de contorsionniste pour essayer d'arracher les contentions que j'avais aux pieds et de pas y arriver, mais au moins d'avoir la satisfaction de m'être libéré les mains. Au Vinatier, ils sont quand même, c'est le premier centre psychiatrique de France. Ils sont débordés, ils n'ont pas de moyens, ils ont un joli parc, mais le parc, quand on est enfermé, on n'a pas envie d'y aller. Mais ils manquent de moyens. Moi, ils me disaient toujours, Emma, elle est débordée, Emma, elle est débordée. Je les voyais, je disais, mais vous êtes plus que débordée. Pour tout le service, il y avait trois pommeaux de douche. Donc juste pour prendre une douche, qui est aussi un soin, comme je le disais avant, juste pour prendre une douche, il fallait taper à la porte du bureau des infirmiers, où généralement ils étaient tous sur le pont en train de faire autre chose, leur demander un pommeau de douche. Alors, il fallait déjà qu'ils en trouvent un. Sur les trois, il y en a deux qui étaient cassés. Et une fois qu'il en restait un seul pour tout le service, je ne sais plus combien on était, une quarantaine, il fallait qu'ils viennent dans la chambre l'installer. Et ensuite, ils disaient, bon, bah maintenant, le pommeau de douche, vous allez l'apporter à la chambre 15. Donc, tu prends ta douche, puis après, tu es là. Et un seul pommeau pour tout le service, je me dis, c'est quand même. C'est pas normal. Passer un mois dans un endroit aussi vétuste où il y a tout qui. Il y a tout qui tombe en ruine, en fait. C'est vraiment le parent pauvre de la médecine, la psychiatrie. Vous ne pouvez pas réaliser ce que c'est en fait que d'être attaché et d'être coupé du monde pendant 2 semaines pleines. Moi qui d'habitude ai plein de relations sociales et toujours plein d'activités et tendance à beaucoup parler, là être complètement coupé, c'est-à-dire personne à qui parler. Donc je chantais, je dansais, je trouvais d'autres moyens de. J'étais hyper créative, je parlais toute seule. Mais être coupé du monde, ça je pense que c'est une expérience qui restera gravée en moi. J'arrivais même pas à savoir où j'étais dans Lyon. C'était tellement isolé, moi ça m'a choquée quand je suis sortie pour la première fois et que mes parents m'ont amenée à la voiture et je leur disais mais je suis dans Lyon en fait. Je suis dans Lyon, je suis dans la ville et je m'en rendais pas compte. C'est tellement un monde mais hyper fermé que j'avais oublié que j'étais dans la ville où je vis habituellement. Je savais que j'étais au Vinatier, je le localisais pas dans l'espace et j'oubliais qu'il y avait une ville, j'oubliais qu'il y avait le monde autour en fait. Et ça, c'est terrible. Pour moi, personne ne devrait avoir à vivre ça. C'est pour ça que quand je dis que j'ai été bien soignée, j'ai eu la chance de rencontrer un bon psychiatre quand je suis sortie des contentions. Mais sinon, ça reste d'une violence inouïe. J'arrive à être apaisée vis-à-vis de l'hôpital. Parce que je pense que j'ai eu la chance d'y rencontrer les bonnes personnes. Mais l'internement et les contentions, ça restera, j'espère, dans ma vie, la chose la plus violente que j'ai jamais vécue. Mais aujourd'hui, enfin, encore une fois, c'est presque une fierté d'avoir passé ce cap-là et de se dire, dans un moment où il n'y a plus rien, où t'es empêché de tout, voilà, ta force d'opposition, c'est celle de leur dire, vous fermez les théâtres, vous fermez les bars, vous fermez les lieux de convivialité. Moi, je voulais organiser des grandes fêtes, quoi. J'invitais les gens chez moi. Je leur disais, oh, ça va être géant. Quand je suis arrivée aux urgences, c'était le début du vaccin. Et pour moi, Macron se présentait comme un héros qui allait sauver les Français. Et j'avais écrit cette phrase de Brecht, malheureux le pays qui a besoin de héros. Ma mère l'avait vue, elle m'a dit, mais Emma, t'as écrit sur ton masque, qu'est-ce que tu fais? Donc je l'avais mis à l'envers pour pas que les gens le voient. Et ensuite, aux urgences, quand on m'a dit d'enlever mon masque, j'avais du bleu de partout sur le visage, j'étais là, je braillais, je faisais mon cirque. Et je me souviens d'un gars qui est arrivé un maghrébin qui disait « Moi, je suis arrivé ici avec les pinces », donc il arrivait de prison, et il disait « Ici, c'est pire que la heps », ça veut dire la prison, parce qu'il dit « Au moins en prison, tu sais quand tu rentres, tu sais quand tu sors. Ici, tu sais quand tu rentres, tu sais pas quand tu sors. »